Bonjour à tous, bienvenue dans cette série d'épisodes de vie intitulée « Une histoire, une création ». Alors pourquoi cette série ? Eh bien, parce que j'ai eu le plaisir d'être invité par le collectif Just Be 16 afin de faire quelques petits podcasts sur des créatrices présentes lors du lancement. Vous retrouverez donc des épisodes plus courts que d'habitude dans lesquels vous pourrez découvrir des créatrices tant dans ce qu'elles font que dans ce qu'elles sont. Je vous invite à les retrouver sur leur Instagram respectif et je vous laisse profiter de ce moment de découverte. Je suis aujourd'hui avec Charlotte, qui fait aussi partie de Just Be 16. Et avant d'en savoir plus sur ton parcours, Charlotte, déjà bonjour.
Bonjour Camille.
Qu'est-ce que toi tu proposes au sein de Just Be 16 en quelques mots ?
D'accord, donc moi je suis coach en développement personnel et je propose actuellement des ateliers sur la confiance en soi et l'estime de soi à travers un exercice sur l'arbre de vie où grâce à cette métaphore de l'arbre, on vient puiser vraiment dans les racines pour se remettre en énergie positive, mettre en avant toutes nos qualités, nos compétences, nos valeurs et pour être en pleine puissance et faire briller sa singularité.
Voilà, donc ça c'est en quelques mots pour Charlotte, je vous préviens d'avance, ça c'est juste en quelques mots pour Charlotte, donc la suite ça sera pire.
Je suis bavarde et passionnée donc...
Alors on se doute qu'avant d'être coach, parce que c'est quand même quelque chose qui s'est démocratisé depuis une dizaine d'années, avant d'être coach en développement, tu as eu un parcours professionnel, loin de ça, c'était quoi ce parcours ?
Alors donc moi j'ai une formation de CPE, donc conseillère principale d'éducation, donc j'ai travaillé pendant 12 années en tant qu'experte de l'éducation nationale et j'ai beaucoup travaillé dans les banlieues parisiennes, dans les zones d'éducation prioritaire, donc c'était un métier dont j'étais passionnée et passionnant, donc toujours axé sur l'écoute des gens, puisque mon métier, en fait, j'étais à l'interface un peu de l'établissement scolaire, entre les enseignants, tous les services proposés aux enfants, les services sociaux, les services administratifs. Et moi, je travaillais pour le bien-être déjà des élèves dans leur scolarité, pour qu'ils soient acteurs de leur scolarité et faire en sorte qu'ils soient le mieux possible dans un établissement scolaire. Et donc, dans les banlieues parisiennes où il y a beaucoup de demandes d'écoute, j'avais l'impression d'être un médecin. J'avais tout le temps des enfants qui attendaient devant mon bureau. Et j'étais là surtout pour les rassérénés parce qu'il y avait quand même beaucoup de violence en eux et autour d'eux. Et toujours, ça se rejoint dans mon métier de coaching, de faire ressortir le meilleur d'eux-mêmes et de faire en sorte qu'ils soient épanouis et qu'ils voient le positif dans leur scolarité.
Et est-ce que c'est pas trop compliqué d'arriver à s'imposer en tant que personne au milieu d'un groupe comme ça qui est dans un cadre un peu justement difficile ?
Alors, en fait, j'avais beaucoup de travail de terrain, c'est-à-dire d'observation dans la cour de récréation, pas pour m'imposer, pour comprendre et faire en sorte qu'ils voient que je fais partie de leur quotidien, pour palper un peu leur environnement. En fait, moi, je pars du principe que pour connaître des gens, il faut connaître un peu comment ils interagissent avec les autres et connaître, bien sûr, leur famille, leurs racines. Donc, en fait, comme je faisais partie de leur paysage, on va dire, dans leur quotidien de l'école, il y a une certaine confiance qui s'établit et c'est la base d'un métier de communication et là, le métier dans l'éducation. Et donc, quand ils venaient me voir dans le bureau, je n'étais pas perchée dans mon bureau. C'est ce que je veux dire. C'est que moi, j'étais vraiment sur le terrain, donc vraiment baignée là-dedans. Donc, ils me connaissaient quand ils arrivaient dans mon bureau et ça établissait une certaine confiance. Donc, à partir de là, il y avait un grand temps d'écoute parce que j'écoute toujours les autres parler et je faisais beaucoup de remédiation, donc de reformulation. Et donc, les élèves, les enfants avaient confiance en moi. C'était la base de mon métier. Pour moi, c'est la confiance dans ce métier-là. C'était ça, vraiment. Et donc, du coup, c'est comme ça que je m'imposais. Alors, c'est pour ça que le terme imposé...
J'ai bien compris que j'ai fait exprès de l'employer.
D'accord. Je cheminais vraiment vers une confiance avec eux pour pouvoir les mettre à l'aise et voir que j'étais aussi là pour leur bien-être.
Donc, en fait, le CPE ou la CPE... C'est pas uniquement l'autorité comme on peut l'imaginer, c'est de la communication
exactement.
Et de la confiance. Quoi.
C'est ça qu'on voit souvent dans ce métier, le père fouettard, un peu l'image de...
Monsieur Robert, il s'appelle.
Exactement, on a tous des références assez marquantes dans nos scolarités, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y en a qui ne les connaissaient pas. Mais en tout cas, moi, j'ai essayé d'apporter de la douceur dans ce monde de brut, parce que c'était vraiment très des établissements violents. Donc j'ai apporté toute la douceur que je pouvais amener. Alors bien sûr la fermeté aussi. Mais j'étais juste et j'étais surtout, et je le suis toujours, j'essayais d'être orientée solution et bien-être pour l'individu, et ça se ressent aussi dans mon métier de coach. C'est un peu le pont que je pourrais faire entre ces deux métiers-là.
Mais on va y venir à ce métier de coach, mais oui. Du coup, ça arrivait à être bien reçu par les élèves.
Oui, parce que j'étais dans l'écoute et dans la remédiation. Donc quand ils arrivaient, en fait, je les apaisais. Et après, on parlait de ce qu'on pouvait mettre en place pour eux. Ils étaient considérés, eux, leur personne, et pas la bêtise qu'ils faisaient. Donc, je remettais dans un contexte d'individu pour essayer de remettre du sens à l'acte qu'ils avaient posé. Et donc, de comprendre après comment on pouvait faire évoluer des comportements ou des visions ou des rancœurs aussi. La violence, il y a beaucoup de rancœurs.
Ben oui, j'imagine. Qu'est-ce qui a été le plus marquant pendant ces années éducation nationale ?
Alors, donc du coup, pour moi, il y a vraiment deux métiers. Alors, je parle de mon métier de CPE. Il y a vraiment deux métiers selon les établissements où on travaille. Donc, dans les établissements difficiles, j'étais dans l'urgence. Et c'était épuisant physiquement et moralement. Parce qu'en fait, on court après le temps, on court après les incidents. Et c'est vrai qu'après, j'ai travaillé aussi dans des établissements, on va dire, plus privilégiés. Et là, c'est pas du tout la même approche. On est plus dans la construction de projets à long terme. Mais dans les établissements difficiles, ce que j'ai aimé et ce qui est important pour moi, c'est qu'on était très soudés dans l'équipe, puisque là, il n'y a pas d'échappatoire. Hein, on doit faire face aux difficultés des enfants. On ne peut pas tricher avec les enfants. Et donc, du coup, il y avait une grande solidarité et une grande... intégrité par rapport à tout le travail qu'on mettait en place. Donc c'était de la solidarité et un travail d'équipe que j'ai pas forcément retrouvé dans des établissements privilégiés. Voilà, c'est ça. Il y avait plus d'individualisme dans les établissements privilégiés. On vient, on fait son métier, on repart. Là, on peut pas faire ça dans les établissements difficiles. On est obligé d'être soudés et de trouver des solutions communes, de travailler ensemble.
Donc contrairement au tableau noir qu'on nous endresse tout le temps, il y a des belles choses à tirer de ces établissements.
Il y a de très belles choses. Et puis souvent, je pour que les gens comprennent, là, la scène de police où à la fin de leurs actions sur le terrain, ils font la fête et ils se retrouvent. Et il y a une certaine... ils soufflent, ils sont heureux. Parce qu'on était heureux de faire du bien aussi aux élèves, hein, de trouver des solutions. Il y a des choses très positives en banlieue. Et ces moments d'exutoire commun, c'est ce qui nous ressourçait et c'était toute notre force en fait. C'est très important. Et c'est des gens passionnés dans les établissements difficiles. On peut pas faire ça si on n'est pas passionné vu tout ce qui se passe.
Donc en soi, il y a toujours eu il y a un lien entre ce que tu faisais avant et ce que tu fais aujourd'hui en tant que coach en développement.
Mais il y a un lien entre mon parcours professionnel et personnel parce que en fait, je me rends compte que j'adore les gens. Je dis souvent, c'est comme un livre. Pour moi, on ouvre un jour un livre et puis j'essaye de comprendre le début, le milieu, de projeter vers la fin, de connaître toutes les petites fêlures, les petites brèches et tout, et de comprendre en fait la personne dans son intégralité. Pas qu'au niveau personnel, au niveau professionnel, amical, ça donne du sens. Et c'est en ça, effectivement, que ça rejoint mon métier de CPE. Et aussi, je pense que le coaching, c'est en moi, en fait. Je le fais aussi avec mes amis, je le fais de manière naturelle. Là, maintenant, je suis contente parce que j'ai des outils qui me permettent d'accompagner quelqu'un d'un point A à un point B avec un délivré, entre guillemets. Donc, c'est aussi bien pour moi d'être cadré par ça.
D'accord.
Et voilà.
Quel événement a fait que tu as eu cette envie de te tourner vers le coaching ? J'ai cru comprendre qu'il y avait eu un voyage, qu'il y avait eu un truc. Enfin voilà. Quels ont été les événements qui t'ont amené à ce changement de vie, entre guillemets ?
Alors, à l'issue de mes 12 années dans l'éducation nationale, j'étais un peu usée quand même, parce que c'est très usant physiquement et psychologiquement. Et j'avais déjà décidé de prendre un temps pour m'orienter vers le coaching. Et en fait, au niveau professionnel, mon mari a eu l'opportunité de pouvoir partir à New York. Donc on est parti, j'ai demandé une disponibilité éducation nationale pour suivre mon mari à New York. Et donc là, j'ai breaké, j'ai fait autre chose pendant ces 4 années. Ça m'a aussi nourri de plein d'expériences et encore, ça m'a donné une grande ouverture d'esprit, encore plus que je ne l'avais. Et du coup, quand je suis revenue de ce voyage, j'ai retravaillé dans l'éducation et je suis allée au bout de mon aventure avec l'éducation. Et là, avec le confinement, je me suis dit, on n'a qu'une vie, il faut vraiment faire ce qu'on veut, il ne faut pas avoir peur de ses rêves. Donc, j'ai foncé, j'ai choisi de suivre cette formation de coaching et je me suis lancée dans cette aventure que j'embrasse pleinement aujourd'hui.
Alors, avant qu'on rentre dans le détail sur ce que tu fais, ce que tu proposes en tant que coach, une question qui me taraude. Les coachs en développement fleurissent de plus en plus oui. dans la société depuis, oui. je dis 10 ans et encore, j'irais moins. Tu vois. Et bon, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de coachs sur Instagram aussi, oui. Coachs Instagrammeurs. Est-ce que tu penses qu'il y a une raison à ça, au fait que... Il y a beaucoup plus de gens qui proposent ce service-là.
Oui, alors là, plus récemment, avec le confinement, on a beaucoup besoin de se recentrer sur soi et d'être dans le développement personnel, de s'écouter. Je pense que les gens ont pris conscience que s'écouter, c'était important parce que c'était un moment où après, on pouvait être en pleine puissance de ses moyens, qu'on pouvait faire ressortir sa singularité et que du coup, on allait surtout vers des choses qu'on aimait vraiment. En fait, apprendre à s'écouter, c'est apprendre après, c'est pouvoir après faire ce qu'on aime. Et je pense que c'est ça vraiment le lien avec tout l'émergence de ces coachs. Et puis, se faire du bien, en fait, voilà, je pense que c'est ça. Après, effectivement, il y a apprendre à et en laisser certainement dans la...
Oui, non, mais cette question, c'est pas pour
oui,
critiquer, savoir s'il y avait des bons, des pas bons.
Oui, tout
c'est
à fait.
C'est vraiment... C'était plus une question sociétale, savoir est-ce que ça a un lien avec le fait que la façon dont la société évolue qui fait qu'il y a de plus en plus de coachs ou c'est juste parce que c'est un métier qui est un peu plus à la mode.
Non, et c'est vrai qu'il y a aussi, je rebondis, excuse-moi, mais il y a aussi beaucoup plus de demandes parce qu'on se rend compte, comme quand on va chez un kiné, quand on est un peu de travers, on peut faire du développement personnel en prévention avant d'être de travers au niveau psychique. Voilà, et c'est se rendre compte de ça. En fait, moi, je dis souvent, je travaille sur les valeurs. Je dis, c'est la colonne vertébrale de votre être psychique. En fait, c'est vrai, quand on se nourrit nous-mêmes, on est bien mieux après. Et du coup, on est plus performant et on est bien, on se sent bien avec soi-même. Donc, je pense qu'il y a... Et puis voilà, ça s'est développé parce qu'on est tourné vers le bien-être plus qu'avant. Et parce que le coaching, le développement personnel... Je pense que c'est essentiel pour être en pleine puissance.
D'accord. Non, non, c'était bien, fais pas de grimace. Donc, coach en développement, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que tu proposes? Comment les gens... Concrètement, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes aux gens?
Alors, je propose de... En fait, surtout par rapport à cet atelier-là, je propose qu'ils se racontent et qu'ils s'écoutent, qu'ils puissent s'écouter, et je les guide dans cette écoute. Donc, ils vont commencer à raconter des histoires qui leur ont fait du bien, qui les valorisent, parce qu'on a du mal à parler de soi de manière positive. C'est un exercice qui n'est pas facile pour tout le monde. Et après, ça fait émerger tout le travail de fond qu'on fait en coaching, c'est-à-dire les fondamentaux, qui sont les valeurs, les croyances, les limites... et donc du coup on travaille sur tout ça et les besoins bien sûr, les besoins. Donc du coup moi je fais révéler en fait les compétences, les qualités de chacun à travers leurs histoires et ça va les révéler à eux-mêmes. Et après avec tout ce travail de fond, ça permet aussi de se dire en fait j'ai des rêves, d'oser les dire à voix haute, d'oser mettre en mots les projets aussi. Et de se dire, waouh, en fait, je viens de voir que j'ai toutes ces compétences en moi et que je peux le faire. Et donc, c'est révéler, en fait, aux gens ce qu'ils veulent vraiment faire et ce qu'ils sont vraiment, avec toutes les qualités et tout. Enfin, c'est vrai, beaucoup de bienveillance et de positif. Après, donc ça, c'est la structure donc, sur, les valeurs, sur les fondamentaux. Et après, de manière opérationnelle, je mets en place un plan d'action précis pour qu'un objectif soit atteint. Alors, c'est, tu sais, c'est la théorie des petits pas. Ça ne va pas être... parce que tout le monde me dit oh, « mais non, en fait, moi, j'ai
ça
des
rêves. » Ça me fait rire parce que, en fait, avant que tu arrives, il y a 2 jours, je l'avais. Sans le savoir, ouais. Je me suis fait une théorie des petits pas, ouais, sur ma porte. Tu vois, il y a plein de trucs sur ma porte. Et je l'ai enlevé en me disant « bon, ça me prend trop la tête.
Ouais. »
Donc, peut-être que je vais le refaire.
Oui. Non, mais en fait, pourquoi je dis la théorie des petits pas? Parce que souvent, quand je discute avec des gens, ils ont peur de... ils se disent oh, « mais en fait, moi, j'ai pas de gros projets, j'ai pas de... » En fait, c'est pas grave. Les projets, ils n'ont pas besoin d'être énormes pour que ça en soit. Ça peut être reprendre le sport, ça peut être aller voir mes amis plus souvent, des choses qui nous font du bien. Et en fait, c'est mettre les priorités qui nous font du bien à l'honneur et faire des plans d'action au quotidien, des petits pas, pour pouvoir les réaliser, mais dans la durée. Parce qu'en fait, moi, ce que je vais demander, c'est dire... On va me dire, ah oui, j'ai envie de... ma dernière coachée me disait... Moi, la spiritualité, c'est important pour moi et je médite plus. Je dis, ben alors, qu'est-ce que tu pourrais faire? Elle me dit, je vais méditer tous les jours. Je fais, non, de réalisable. Qu'est-ce que tu peux faire dans ton quotidien? Je ne te demande pas de le faire vite, très bien. Je te demande de le faire une fois et que ça tienne à moi. Parce que c'est ces choses-là qui vont te mettre en énergie pour la suite et qui vont pouvoir te faire grandir et aller vers ce que tu veux vraiment.
Qu'est-ce qu'ils recherchent, les gens qui viennent te voir? Changer d'orientation professionnelle, une vie amoureuse? Parce qu'en soi, coach en développement, ça peut développer plein de choses différentes.
Oui, exactement. Oui, alors en fait, souvent, on vient avec une idée en tête. Et quand on a fait ce travail en profondeur sur soi-même, l'objectif peut être différent de la demande initiale. Donc, du coup, tout ce travail-là va faire en sorte que la personne, elle va se projeter dans ce qu'elle veut vraiment. Donc, ce qui ressort à l'issue de ce travail, ça peut être, comme tu dis, j'ai plein de demandes. J'ai pas vraiment de demandes type. Mmh. J'ai des demandes de reconversion professionnelle quand même. C'est un peu l'idée du moment. J'ai aussi beaucoup de demandes de « je veux être bien dans mon quotidien ». Donc, ça va passer par le sport, ça va passer par la culture, ça va... Voilà, c'est deux axes, le perso par rapport au bien-être et le professionnel. En ce moment, j'ai beaucoup de demandes de réorientation. Et c'est des choses qu'on peut travailler en coaching tout à fait avec un délivrable, enfin voilà, les étapes à mettre en place des petits pas et le plan d'action, en fait, que je peux mettre en place.
Il y a des choses qui ne sont pas réalisables.
Alors ça, on ne peut pas les traiter. Ça, on le dit au coaché. En fait, on vérifie, on a tout un protocole. Quand le coaché sort son objectif, on a un protocole en 9 points qui voit si c'est réel. Et dans les 9 points, il y a le réalisable. Et si ça ne l'est pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le mesurer à un moment donné et donner des résultats, ça s'appelle un objectif chapeau. C'est-à-dire qu'il va enclencher sur des objectifs qui vont pouvoir être mis en place. L'objectif chapeau, ça va être un rêve. Et nous, on va transformer de manière pragmatique l'objectif que la personne va pouvoir atteindre. Je ne sais pas si c'est clair.
Ouais.
Donc voilà. Donc du coup, ça va être remettre le coaché sur ce qui est possible dans son futur.
D'accord. Voilà. Donc en fait, voilà. Pour vous, pour que vous le sachiez, tout n'est pas réalisable.
Tout n'est pas
réalisable. Si là, demain, je viens de voir en me disant « je veux être une star à Hollywood, mais je ne parle pas anglais et je suis un très mauvais acteur. »
Eh bien, on va sectionner, tu vois, là, dans ce que tu me dis, en 3 points. Je veux anglais, acteur... C'est possible de devenir acteur à n'importe quel âge.
Oui, voilà. Et de manger des chewing-gums Hollywood.
En fait, derrière ce que tu viens de dire là, cet objectif qui paraît wouhou,
qui n'est pas le mien, mais...
Voilà, mais qui pourrait être le tien. Mais derrière ça, il y a quand même des sous-objectifs qui sont là, qui sont sous-jacents et auxquels qu'on va réveiller et qu'on va dire, hop, alors si tu me dis ça, qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est fondamental? En fait, on va travailler l'objectif fondamental au moment T où on reçoit le coaché.
C'est ça. C'est ce que j'avais dit ça une fois dans un podcast où il y a ce que j'appelle l'arbre à rêve et de temps en temps, t'en cueilles des fruits et t'es content déjà d'en manger un peu.
Exactement.
En fait, je vais faire coach moi aussi.
Ouais, mais c'est bien que tu me parles de l'arbre parce que c'est l'outil que
c'est des trucs que je savais pas.
C'est beau, mais c'est vrai.
En quelques mots, parce qu'on arrive à la fin, on a même un peu dépassé. Est-ce que t'as une méthode particulière?
Ah oui, il y a une méthode de coaching, hein. Il y a une méthode, on a des étapes à respecter, on a ce travail sur les fondamentaux qui est incontournable, et on a ce délivré par rapport à l'atteinte de l'objectif qui est aussi incontournable.
La question habituelle, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ?
De belles rencontres, le meilleur, la réussite, la santé, tout.
Et enfin, où est-ce qu'on peut te retrouver, te contacter, voilà, que les
Alors,
gens puissent...
Du coup, moi je travaille dans le 16e arrondissement, donc je fais les ateliers dans le 16e, et on peut me retrouver, là j'ai ma page Instagram Charlotte M Coaching, et un site internet aussi, contactez-moi, je serai ravie de vous accompagner.
Et ben voilà, n'hésitez pas à contacter Charlotte. Merci Charlotte, et puis n'oubliez pas que extraordinaire ou classique, chaque vie mérite d'être racontée, et on se retrouve pour d'autres épisodes pour cette série Une histoire, une création. Merci beaucoup Charlotte.
Merci beaucoup Camille.